BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guez.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. La médecine connaît des progrès époustouflants dans le domaine du diagnostic, du traitement, du suivi. Et le résultat, on le connaît, c'est que l'espérance de vie augmente. Ça, c'est bien. Mais ce qui est moins bien, c'est qu'il y a aussi le cortège de pathologies chroniques et parfois de pertes d'autonomie. Comment gérer cette situation? Comment la prévoit-on? Comment la prend-on en charge médicalement, financièrement, sociétalement? Notre système de soins hybride associant assurance maladie et complémentaire santé aura-t-il les moyens de suivre ce mouvement inéluctable? Les complémentaires santé ont, semble-t-il, compris les enjeux de ce bouleversement en investissant dans les nouvelles technologies, la e-santé et la prévention. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Elkrieff, qui est directrice générale d'Aesio Mutuel, Vincent Augusto, directeur du Centre d'ingénierie en santé à l'École des mines de Saint-Étienne, et Rémi Bouvier, directeur d'Aesio Santé. Check-up santé, c'est parti. Sophie Elkrieff, bonjour.
Bonjour.
Vincent Augusto, bonjour.
Bonjour.
Rémi Bouvier, bonjour.
Bonjour.
Alors, Sophie Elkrieff, vous êtes directrice générale de Aesio Mutuel, directrice générale de UMG Aesio Massif. Vous êtes passée par quelques petites écoles, Ponts et Chaussées, SEC, INSEAD. Je le disais en entrée, la population française vieillit. J'espère qu'on aura aussi cette chance. Mais il va falloir s'en occuper. Alors, quel est le constat un petit peu sur ce vieillissement de la population? Quelles sont les prévisions, si on peut en faire?
Alors, le constat, il est assez clair. En Europe et en France, aujourd'hui, on a à peu près 20% de la population qui est au-dessus de 65 ans. Mmh. Voilà, dans 40 ans, on aura 30% de la population européenne au-dessus de 65 ans. Donc ça, c'est un premier constat.
C'est une évolution parallèle dans tous les pays, à peu près, de
l'Europe. C'est à peu près la même chose, avec quelques disparités, mais c'est assez marginal. Maintenant, la question, et qu'on se pose tous...
Au-dessus de 65, c'est pas très grave, mais c'est surtout au-dessus de 80-85, non?
Au-dessus de 85 ans, en 2050, la population sera multipliée par 4.
D'accord.
Voilà. Oui. Et la population dépendante, parce que c'est aussi de ça dont on parle, mmh. on aura environ en 2050 4 millions de personnes en France dont il faudra s'occuper. Voilà, clairement, qui seront en situation de dépendance. Mmh. Donc c'est un enjeu majeur pour notre société. Après, et ce qu'on recherche tous, c'est la question, c'est vivre plus longtemps, oui. Mais en bonne santé.
Bien sûr.
Vivre mieux en bonne santé.
Le plus longtemps possible, mais en bonne santé.
Donc le constat, c'est celui-ci. Le deuxième constat, c'est la population des dents. C'est qu'aujourd'hui, vous avez un Français sur six qui est en situation des dents vis-à-vis d'un proche dans sa famille. Et vous avez, en 2050, contact direct avec quelqu'un qui doit aider. Mmh. Et en 2050, on passera à un Français sur quatre. Voilà, donc ça dit à quel point ça va devenir quelque chose de central au sein des familles. Et le dernier constat, c'est les aidants et les gens et tous ces personnels, toutes ces personnes dont nous avons besoin pour accompagner nos aînés. Qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, la France n'est pas un très bon élève sur ce sujet. On manque déjà de personnel. Ce manque va aller en augmentant. Donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui de comment valoriser ces professions.
Entre autres, partage des tâches, par exemple.
Voilà. Ouais. Comment? Et puis, il y a cette situation d'isolement quand vous aidez des personnes âgées qui sont chez elles. Comment vous avez un sentiment d'équipe? Est-ce qu'il n'y a pas des réflexions? En tout cas, nous, on discute beaucoup des réflexions sur l'hybridation, c'est-à-dire travailler en établissement et auprès des personnes qui sont chez elles. Et le dernier point qui est aussi essentiel, c'est qu'aujourd'hui, les personnes dépendantes sont essentiellement en établissement en France, avec tous les sujets d'isolement que ça peut entraîner, alors que le souhait profond des gens, c'est de rester chez eux le plus longtemps possible.
Il y a la perte d'autonomie, mais il y a aussi les maladies chroniques.
Exactement. Les maladies chroniques, aujourd'hui, on a un Français sur six qui est atteint de maladies chroniques.
Oui.
Et en 2050, les Français auront 4 à 6 maladies chroniques seront potentiellement atteintes de 4 à 6 affections de longue durée. Voilà.
Bon, on espère que les progrès de la médecine feront que...
Moi, je suis convaincue que les progrès de la médecine aideront et aussi les solutions que tous les acteurs de l'écosystème de la santé pourront proposer aussi.
Oui. Alors justement, donc le système de soins, le système de santé en France, il est un petit peu particulier, il est hybride entre l'assurance maladie et les complémentaires santé. C'est une bonne chose, c'est un plus ?
Moi, je trouve que c'est un plus. Mmh. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que nous recherchons ? En tout cas, nous, au sein des complémentaires santé, ce que nous recherchons, c'est un accès à des soins de qualité pour tous. Donc, c'est une santé solidaire. Une santé solidaire, il faut pouvoir la financer. Évidemment, et nous, on est convaincus que le partenariat entre les pouvoirs publics et des acteurs du privé comme les mutuelles, c'est un bon système. Mmh. On peut toujours l'améliorer. C'est
la
pas le débat aujourd'hui.
Voilà, c'est d'où ça. Les complémentaires.
Exactement.
Oui.
Vous avez le régime obligatoire qui prend en charge un bon nombre de choses, notamment des pathologies très lourdes. Et ça, c'est la solidarité nationale. Et vous avez les complémentaires qui prennent en charge tout un ensemble de choses supplémentaires qui permettent d'améliorer la qualité de vie, de vivre mieux. Et avec un système assurantiel, le système assurantiel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mutualiser. C'est aussi un système solidaire. Donc.
Oui, Rémi Bouvier, vous êtes directeur de Daisio Santé. Donc, évidemment, ce système, il est aussi important dans le sens où l'assurance maladie ne s'occupe pas beaucoup de la prévention.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et dans ce que disait ma collègue...
On est d'ailleurs parmi les derniers de la classe. Hein, derniers,
voilà, en Europe, on est parmi les derniers.
Dernière étude OCDE, on était les 23e, je crois.
Oui, oui. Et quand on dit que la médecine doit faire des progrès, j'allais dire oui et non, c'est plutôt la prévention qui doit faire des progrès, parce qu'on a une médecine de pointe qui fonctionne excessivement bien. C'est-à-dire, si vous faites un AVC en France, vous avez toutes les chances d'être sauvé, mais vous pouvez être hémiplégique à vie, et donc finir le restant de vos jours, finalement, en étant très dépendant et avec un handicap profond. En Europe du Nord, la stratégie est un petit peu différente et c'est peut-être une stratégie qu'on devrait aborder, c'est-à-dire nous maintenir en bonne santé le plus longtemps possible, quitte à vivre peut-être un petit peu moins vieux, mais en meilleure santé. Donc il va falloir qu'on éduque la population à vieillir en bonne santé et que nous-mêmes, d'ailleurs, dans nos établissements, on mette les stratégies en place.
Et puis cogiter, trouver de nouvelles idées, innover en permanence comme vous essayez de le faire et que vous faites, j'imagine.
Alors je pense qu'on
va en reparler. Oui, voilà, on va en reparler collègue. Avec Vincent Augusto juste après. Donc Sophia Cré, vous êtes une mutuelle. C'est quoi des valeurs mutualistes ?
Les valeurs mutualistes, au cœur de la mutualité, il y a l'humain, donc la personne humaine. Donc c'est dire, c'est le vivre ensemble, la solidarité. Et solidarité ne dit pas abdiquer de la liberté. Donc c'est liberté de choix et solidarité. Donc tout ce que nous le faisons pour mettre nos actions au service d'un projet humain et sociétal, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment le cœur du mutualisme.
Rémi Bouvier, donc en plus de votre fonction du mutuel, vous gérez un véritable réseau de santé.
Je crois, pour être très précis, je gère pas du tout côté mutuel, assurantiel, je gère uniquement le réseau de santé. Mmh. Et dans cette manière très complémentaire, nous essayons de proposer des prestations, en fait, aux adhérents, et surtout de modéliser, parce que je pense qu'on n'est pas capable d'avoir un réseau de prestations uniforme sur l'ensemble du territoire français. Ce serait très ambitieux. D'ailleurs, aucun groupe aujourd'hui n'est capable de le faire. Par contre, de modéliser des modèles duplicables, oui, ça c'est notre rôle, et on le fait tant sur le sanitaire, le médico-social, et également sur d'autres activités, même sur le modèle des pharmacies d'office. Aujourd'hui, on est sur des présentations des nouveaux modèles.
Oui, donc on le sait pas, on le sait pas assez. Donc vous avez donc des établissements de santé privés à but non lucratif. Vous avez des cabinets dentaires. Vous avez qu'est-ce que vous avez en gros ?
Alors globalement, on a du sanitaire de type clinique, ce qu'on appelle le MCO, la médecine, la chirurgie, l'obstétrique. Mm-hmm. On fait également pas mal de SSR, tout ce qui est rééducation, rééducation fonctionnelle, etc. Ouais. Le suivi de l'hospitalisation à domicile. Des plateaux dentaires, on doit être à peu près en quatrième position sur le réseau dentaire, plus de 120 fauteuils, donc un acteur du dentaire important. On s'occupe également de maisons de retraite, mais plus exactement d'EHPAD avec toute la sanitarisation qu'on connaît, du handicap psychique et moteur, et également...
De pharmacie.
Des pharmacies, réseau de matériel médical et également d'audioprothèses, puisqu'on a le 100% santé qui s'est mis en place. Mm-hmm. Et on voit qu'en ce moment, il y a une prophylaxie qui se met sur l'audition très importante et l'appareillage de l'audition est en ce moment en train de se développer en France.
Donc je lisais 200 établissements de santé à peu près.
À peu près.
C'est réparti à peu près dans toute le.
Non, on a des zones prépondérantes, puisque au tout début le réseau de santé s'est créé aussi là où il y avait des adhérents de nos mutuelles, donc on a des zones d'implantation privilégiées. Mmh.
Alors évidemment, pour avancer, il faut avoir des idées. Les idées, il faut les proposer, il faut les concrétiser. Aesio donc s'ouvre un petit peu à l'extérieur et propose des partenariats avec différents acteurs, dont justement l'école des mines de Saint-Étienne. Vincent Augusto, donc vous êtes le directeur, redites-moi votre titre.
Directeur du Centre Ingénierie Santé de l'école des mines de Saint-Étienne.
École des mines qui est très ancienne.
Exactement, qui a plus de 200 ans. Donc c'est une école généraliste qui fait partie du réseau de l'Institut Mines Télécom et qui donc forme des ingénieurs généralistes, donc toutes compétences scientifiques entre l'informatique, la chimie, les matériaux, la santé, en particulier à Saint-Étienne.
Et donc vous avez une chaire de santé qui est assez particulière, spécifique, non ? Et c'est une des seules parmi toutes les écoles des mines ?
Oui, alors on a un centre ingénierie santé qui développe donc des recherches appliquées au domaine de la santé, donc de la biomécanique, de la chimie, etc., appliquées au domaine de la santé, de l'informatique. Et d'autre part, effectivement, on est en association avec une chaire de santé dont Aesio fait également partie, dans laquelle en fait on va développer des recherches en particulier sur l'évaluation des nouvelles technologies en santé, comme la télémédecine, la téléconsultation et ainsi de suite.
Vous êtes aussi associé à l'université Paris-Est Créteil, c'est ça ?
Dans le cadre de la chaire, oui, exactement.
À l'INSERM avec l'INSERM aussi ?
Oui, tout à fait, oui.
D'accord, alors comment ça se passe votre partenariat, évidemment avec beaucoup de monde, mais en particulier avec Aesio ?
Alors en fait, le partenariat avec Aesio s'est déroulé de la manière suivante. En fait, c'est Rémi Bouvier est venu nous voir en fait à l'école des mines en disant, voilà, nous on a des idées pour faire le maintien à domicile, pour prolonger, on va dire, la vie des gens en bonne santé à domicile, comme ça a été dit auparavant. On sait pas trop comment faire, et on pense que ici, vous avez les connaissances pour pouvoir le faire. Et donc, nous, on a répondu en disant, effectivement, on peut avoir des outils, des connaissances qui peuvent vous aider, donc, en informatique, en intelligence artificielle, en modélisation. Et donc, c'est de là qu'est parti le partenariat, un problème concret, une idée, et comment est-ce qu'on peut l'implémenter ensemble avec l'expertise de santé d'un côté et l'expertise ingénierie de l'autre.
D'accord, donc une complémentarité entre professionnels de santé, entre ingénieurs, entre chercheurs.
Complètement, ouais, tout à fait. Et c'est là la richesse du partenariat, parce que on a vraiment une recherche qui est, dès le début, co-créée finalement avec des partenaires de santé, ce qui n'est pas toujours le cas en fait en recherche. Vous avez beaucoup de labos qui travaillent de manière très théorique, très 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 indépendante. Mais là, dès le début, en fait, on a des relations avec le monde de la santé, ce qui fait qu'on a des produits au bout du compte qui sont applicables sur le terrain.
Et donc, vous avez créé un lab, le MedTech Lab, c'est ça, avec Aesio. Oui.
Donc, dans le cadre de cette collaboration, on a des projets de recherche ensemble et on a co-créé, en fait, c'est le cas de dire, un living lab qui s'appelle le MedTech Lab, qui permet en fait justement d'instrumenter toute cette idée de co-création. Le Living Lab, en fait, c'est la méthodologie de co-créer avec l'utilisateur dès le début, dès la genèse d'un projet. Et donc cela, on l'a développé en fait avec Aesio, effectivement, en essayant de cibler des projets. On est parti par exemple sur le lit. On s'est demandé, le lit de demain, qu'est-ce que ça va être ? Le lit du futur, ouais, c'est ça. Et donc on a fait venir des médecins, des usagers, des résidents d'EHPAD, des infirmières, des médecins, pour pouvoir penser tous ensemble autour de ce projet-là. Et c'est vraiment la méthodologie Living Lab qu'on implémente en collaboration avec Aesio et avec l'école des mines, bien sûr.
Alors donc parmi les projets auxquels vous avez collaboré, donc il y a cette fameuse BOC des fragilités qu'on va d'ailleurs voir tout de suite sur ce petit film.
C'est dans cet appartement intelligent du MedTech Lab de Saint-Étienne que les professionnels de santé pensent, créent et expérimentent tout type de produits et services appliqués à la santé et l'autonomie. Parmi leurs projets, la box des fragilités, un outil d'analyse en continu des habitudes comportementales d'une personne grâce à un ensemble de capteurs installés dans l'habitat intelligent. Guillaume Gardin, directeur innovation, recherche et développement Aesio Santé et co-directeur du MedTech Lab.
Personne peut avoir accès, grâce à un jumeau numérique, la projection de ses fragilités et se prendre conscience des actions de prévention à réaliser pour en discuter avec son médecin traitant, avec sa famille, ses aidants, et adopter des actions correctrices qui vont lui permettre de rester le plus longtemps possible à son domicile.
Créé par Aesio Santé, Aesio Mutuel et l'École des Mines de Saint-Étienne, ce Living Lab donne lieu à l'expérimentation et l'observation des usages dans la e-santé. Un partenariat ambitieux permettant des ateliers d'intelligence collective, comme nous l'explique Pascal Horry, président d'Aesio Santé.
L'originalité du MedTech Lab, vous l'avez bien compris, c'est de mettre autour de la table des chercheurs en santé, des professionnels de santé, mais aussi des usagers. Et ça nous permet d'être plus efficients pour aller capter les attentes et les besoins et s'assurer que les solutions que nous envisageons peuvent vraiment se mettre en œuvre au service de la prise en charge des patients, des résidents et de la population.
Associer les différents domaines d'expertise, c'est là le pari du MedTech Lab. Un modèle d'innovation mutualiste innovant et différenciant pour ces enjeux de longévité de la société.
Alors donc, Rémi Bouvier, vous êtes directeur général d'Aesio Santé. On vient de voir ce petit film sur cette box des fragilités. C'est vraiment impressionnant. Donc le but, c'est de prévoir un petit peu l'évolution et le passage justement vers une éventuelle perte d'autonomie.
Oui, tout à fait. Tout à l'heure, on parlait de prévention et là, on a passé presque le cap. On est dans le prédictif.
Ah oui, c'est plus de la prévention, c'est de la prédiction.
C'est de la prédiction, tout à fait. Alors, l'idée est la germée très simplement. Quand on voyait des gériatres s'exprimer, un gériatre regarde les patients, il questionne la famille, il questionne l'entourage et finalement, il dit, ouais, voilà, ah, c'est vrai que dans quelques mois ou dans quelques années, si on fait pas ci, si on fait pas ça, on a une perte d'activité.
Ça s'appelle un pronostic.
Ouais. Exactement. Mm-hmm. Et on s'est dit, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une intelligence artificielle qui serait capable de pronostiquer des dizaines et des dizaines, voire des milliers de personnes simultanément? Donc l'idée est née de la box des fragilités. Une idée relativement simple, comme l'a été expliqué. Finalement, c'est relever des micro-indices, créer un jumeau numérique. Ouais. Ce jumeau numérique, on le fait vieillir et on regarde comment il a vieilli, s'il a vieilli bien ou mal, et s'il a vieilli mal, on fait de la prédiction.
Ouais. Alors Vincent Augusto, donc c'est sous forme de capteurs, c'est ça? Donc cette box, elle est...
Oui.
Elle réunit quoi? Des capteurs, des systèmes d'alerte, des...
Oui, alors il y a plusieurs choses, effectivement. Donc il y a un ensemble de capteurs qui est la partie technique, on va dire, de l'innovation, qui est pas forcément là où il y a le plus, d'ailleurs, de recherche qui est fait. Et le cœur, en fait, de notre contribution, c'est un algorithme. Donc un algorithme, juste, comme le disait Rémi Bouvier, qui va modéliser le comportement de la personne à domicile, apprendre sur ses habitudes de vie et déduire de ses habitudes de vie des indices sur la fragilité de la personne et surtout l'évolution de cette fragilité.
Donc il faut implémenter la box quand même, puisqu'on a besoin quand même de l'interrogatoire, de connaître le mode de vie de la personne.
Exactement. En fait, la grosse contrainte, si l'on peut dire, c'est que on ne peut pas mettre la box et dire demain, là, vous allez être fragile dans un an. Il faut en fait que la box puisse apprendre sur la personne donc pendant 3-6 mois et après, une fois qu'on aura suffisamment de données sur une personne, on sera capable de lui dire, bah voilà, votre bilan aujourd'hui, il est comme ceci, et dans 6 mois, bah, il y a des chances que vous soyez comme ci, comme ça.
Alors Sophie, tous ces projets, toutes ces actions, évidemment, ça coûte de l'argent. Il y a un coût financier, la population qui vieillit, les maladies chroniques. Comment fait-on quand on est d'une mutuelle pour avoir le juste milieu, pour trouver le juste milieu, pour ne pas, j'imagine, augmenter les cotisations, pour ne pas...
Alors, il y a deux questions dans votre question. Mm-hmm. Il y a la question du système. Et donc, ça, c'est la solvabilisation du système. Et c'est là où notre rôle est essentiel. Et on en a parlé brièvement tout à l'heure. C'est aider à offrir plus au plus grand nombre. Et pour ça, ben, les pouvoirs publics, voilà, nous sommes complémentaires. C'est bien c'est le cas de le dire, des pouvoirs publics pour... apporter des solutions financières pour l'accès aux soins pour tous. Après, le deuxième volet de votre question, c'est ces innovations. Et ces innovations, nous, on a envie d'y participer avec une vision qui n'est pas une vision d'investisseur, et que je respecte hein, tout à fait, surtout sur BFM Business, mais avec une vision d'investisseur mutualiste, c'est-à-dire dans quelle mesure ça nous permettra d'avoir un meilleur service et d'offrir, d'aller dans notre sur notre vision, qui est une vision d'offrir la meilleure santé, le plus de prévention au plus grand nombre. Et d'accord. Voilà. Donc c'est, et en ça, oui, on a évidemment un partenariat, outre le même nom, des partenariats très forts avec Rémi Bouvier et Aesio Santé. Et surtout, un élément important de nos mutuelles, c'est qu'on est ancré dans les territoires et tout comme les établissements de offreurs de soins de Rémi Bouvier. Et ça, ça veut dire qu'on est au plus près des patients, des adhérents. Alors, soit c'est des patients, soit c'est des adhérents à nos mutuelles. Ça, ça nous permet d'avoir les vraies informations et de pouvoir faire des propositions qui soient utiles, en fait.
Bien sûr. Et puis finalement, l'innovation, elle permet de faire des économies.
Normalement, oui. Ouais. En tout cas, nous, on y croit. Et surtout, quand ça permet de faire de la prévention, un des enjeux majeurs, c'est financer cette prévention. Et nous, notre vision, c'est que, bon, de toute façon, c'est un axe majeur, qu'on veut prendre notre part au financement, qu'on réfléchit à des solutions astucieuses avec d'autres mutuelles de financement de cette prévention, parce qu'aussi c'est un moyen d'avoir une solidarité intergénérationnelle.
Évidemment.
Parce que qui finance la prévention au global, finalement, on en bénéficie essentiellement quand on commence à rentrer dans cette société de la longévité.
Et Rémi Bouvier, parfois vos idées, vos solutions, elles se heurtent aussi à un réglementaire qui est un petit peu parfois surréaliste.
Ah, complètement, je pense que le bonne idée, la bonne expression, c'est la cité des aînés. C'est un projet qu'on a mené, sur lequel on a voulu faire une page blanche. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, on aurait un établissement pour accueillir des personnes âgées dépendantes, qu'est-ce qu'on ferait? Et en fait, on a créé cette cité des aînés, et globalement, je veux dire, on a fait quasiment une soixantaine d'articles 51 pour la faire naître, parce que finalement, on était dans des carcans institutionnels.
Mais qu'est-ce que c'est qu'un article 51?
Un article 51, c'est une dérogation pour pouvoir mettre quelque chose en place qui passe au-dessus d'un texte de loi. Je vous donne un exemple très très simple. Aujourd'hui, le code des familles, parce que vous êtes chez vous dans une EHPAD, vous êtes obligé d'avoir un cabinet de toilette avec une douche. Quand vous êtes un patient très dépendant, vous n'allez plus dans votre cabinet de toilette de votre chambre, vous allez dans une salle qui est aménagée parfaitement pour ça.
Et vous n'y passez pas la journée.
Hein. Et vous n'y passez pas la journée. Pourquoi finalement avoir cet investissement alors qu'on pourrait redéployer l'argent ailleurs? Article 51. Voilà, et je pourrais vous égrener tout au long de la soirée tous les articles 51 qu'il faut pour faire une cité des.
Autre exemple, les salles à manger, les salles de réfectoire.
Salles de réfectoire.
Ouais.
On avait obligation, d'avoir une place assise pour chaque personne qui est dans l'EHPAD. Quand vous avez une EHPAD avec des girins 1 et 2 et des unités protégées, alors on appelle unités protégées, c'est des gens qui ne sortent pas de leur service. La salle à manger, bien entendu, dans le service. Aucun intérêt d'avoir un potentiel de salle à manger complet. Ça vous rend un grand hall, ça rend la maison froide, inhospitalière, alors que finalement, on pourrait avoir des petites salles à manger. Mais au bout du compte, tout le monde entend raison et on arrive à proposer des nouveaux produits aujourd'hui.
Oui. Et finalement, donc cet article, vous parliez de l'article 51, finalement, il suffit d'en parler pour passer outre les...
Il faut quand même argumenter.
Il faut argumenter, d'accord.
Oui, il faut argumenter un tout petit peu. Mais on a quand même des très
bons... Ça n'est pas parfois à changer un petit peu la législation, non? Pour pouvoir autoriser certaines choses qui n'étaient pas autorisées avant.
Si,
vous avez... tellement simples.
Vous avez un très bon exemple aussi, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est la télémédecine, qui n'arrivait pas à décoller. Et finalement, la crise Covid nous a montré que la télémédecine était indispensable. Et on a eu...
Que vous avez appliqué, je crois, il y a très longtemps, cette télémédecine
On a démarré en 2015. Voilà, donc ça, on l'a mis en place. Là aussi, sous des formules dérogatoires, et on peut remercier l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes qui avait autorisé cette expérimentation. Là aussi, sur des fonds spéciaux. Et finalement, on a été rattrapé. Et aujourd'hui, enfin, il y a une législation qui nous permet de faire de la télémédecine.
Sophie, un mot sur cette fameuse cinquième branche de la sécurité sociale. Il y avait jusqu'à présent quatre branches. Les accidents du travail, la retraite, la maladie, la famille. Il y a une nouvelle branche récente sur l'autonomie.
Oui.
Est-ce que c'est un point positif? Est-ce que...
Je pense que c'est un point très positif. Ouais. Parce que ça... En fait, ça reconnaît... le sujet dont on parle depuis le début de l'émission, qui est la société de la longévité. Et donc, il va y avoir comment prendre en charge nos aînés qui deviennent dépendants. Et comment on finance cette prise en charge. C'est ça qu'on est en train de dire. Donc déjà, on pose le problème sur la table. Ce qui n'était pas le cas. Et ce qui est, on est un pays où il y a aujourd'hui très peu de solutions pour les personnes qui deviennent dépendantes. Les dépenses sur ces sujets sont parmi les plus faibles d'Europe. Voilà, on est aujourd'hui à peu près à 30 milliards en France. D'ici une vingtaine d'années, enfin, on passera à 50 milliards. En fait, ça va doubler très vite.
Ouais.
Mais c'est en lien avec ce qu'on se disait au, au démarrage.
Mais c'est pas déplacer de l'argent, c'est pas habiller Pierre, déshabiller Pierre pour habiller Paul, non?
Non, pas du tout. Là, de toute façon, il y a des problèmes de financement. Donc, le fait d'acter ça, ça signifie il va falloir faire appel à la solidarité nationale, donc une branche de la sécurité sociale.
Donc, ça veut dire augmenter les cotisations.
Bah, peut-être.
Oui.
Peut-être les cotisations pour tous.
Parce que l'assurance maladie est déjà en assez mauvais état, non?
Je sais, et c'est pour ça que les complémentaires santé cherchent des solutions pour avoir continué ce partenariat avec les pouvoirs publics et aider au financement des grands problèmes sociaux de nos sociétés. Mmh. Donc des solutions assurantielles où on mutualise le risque et on applique des principes de solidarité.
Vincent Augusto, pour terminer, donc, à part cette box des fragilités, vous travaillez sur d'autres projets en santé? Très rapidement.
Oui, bien sûr. Donc, on a tout un ensemble de projets de recherche qui sont menés en collaboration avec AESIO. Donc, notamment, on a parlé du lien intelligent. Donc, là, on est en train de développer aussi un projet tripartite, finalement, entre un fabricant de lits, AESIO et l'école des mines sur penser et développer le lit de demain. On travaille aussi beaucoup, bien sûr, avec les hôpitaux sur des problématiques d'organisation, de flux. On a parlé de la crise Covid, par exemple. Donc, on travaille sur des outils qui permettent d'aider à mieux organiser l'hôpital pour faire face à ces arrivées de patients. Donc, le Centre d'ingénierie santé de l'École des Mines, c'est vraiment ça, c'est essayer de répondre à des enjeux concrets de santé en apportant de la science, mais qui va être appliquée, on va dire, à court terme.
Très bien, donc un dernier mot pour conclure.
Oui, il va falloir qu'on soit imaginatif.
Oui.
Je pense que la société est en plein changement. Elle change sur son modèle économique, elle change sur son modèle de prise en charge, elle change énormément sur les attentes patients, les attentes des familles. On a ces personnes âgées également qui arrivent, qui sont des personnes âgées plus éclairées, qui vont nous demander autre chose. On a également cette longévité qui a augmenté. On n'est pas à 95 ans dans un même état de santé qu'on l'était à 75 ans. Donc on va être obligé de revoir véritablement le modèle. Et je pense que Sophie Elkrief tout à l'heure nous parlait de cette cinquième branche. Il va falloir qu'on soit très imaginatif. Et quand on entend parler par exemple de l'EHPAD hors les murs, de la prise en charge à domicile, là aussi il y a des utopies qui laisseraient penser que on aurait des orientations qui coûteraient pas cher, et c'est faux. Et donc le modèle, il va falloir qu'on s'y penche dessus.
Très bien, merci beaucoup pour ce débat très très intéressant. Merci Sophie Elkrief, directrice générale de Daisio Mutuel. Vincent Augusto, merci, directeur du Centre d'ingénierie de santé à l'École des mines de Saint-Étienne. Et merci Rémi Bouvier, qui n'est pas médecin, personne n'est parfait, et qui est directeur général d'Aide Santé. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.